Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Marc Gollery, dont Bertie Bourdon, Nicolas Sendé. Réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Olivier Arnay. Suite de notre série 5 ans après l'accord de Paris, à l'occasion de laquelle nous mesurons les avancées, mais aussi les retards qui ont été pris dans le domaine de la lutte contre le dérèglement climatique. Lundi, nous parlions des États-Unis, hier de la Chine, demain il sera question de la Russie, aujourd'hui cap sur Bruxelles. Un Green New Deal renforcé pour une union divisée, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Nous sommes déterminés à nous attaquer à ce changement climatique et à en faire une opportunité pour l'Union européenne. Nous sommes conscients que toutes les régions n'ont pas le même point de départ, que pour certaines régions et certains secteurs, il sera plus difficile de s'adapter. C'est pourquoi nous avons débattu de la manière de mieux soutenir les personnes, les entreprises et les régions qui doivent s'adapter davantage.
Regardez cette colline là-bas, près de la mine. Il y a plein de charbon. Qui est-ce que cela peut déranger? On a besoin de charbon. Et ceux qui pensent autrement, vous savez...
Il est très facile pour des pays qui ont déjà de faibles émissions d'être ambitieux et de fixer des objectifs. Mais tout le monde ne part pas à égalité. La Pologne a recours au charbon depuis de nombreuses années et 80% de l'énergie provient encore du carbone en Pologne.
Dans l'ordre, Ursula von der Leyen, un mineur à la retraite, un mineur polonais qui comprend pas pourquoi la Pologne doit se priver de ses richesses minières. Et puis Magdalena Szaula-Kosury, la secrétaire générale adjointe du lobby de l'industrie du charbon Eurocoal. Fin 2019, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dévoilait son Green Deal, pacte vert en bon français, une ambitieuse feuille de route de 1000 milliards d'investissements sur 10 ans, censée faire du continent le premier espace de neutralité carbone à l'horizon 2050. Sauf que si l'ambition est officiellement partagée par les 27, ses modalités d'application ne font pas l'unanimité. Et de fait, pour certains, la transition sera plus douloureuse, voire inatteignable dans les temps. La Pologne, dont on parlait à l'instant, dont l'électricité dépend encore largement du charbon, a d'ailleurs refusé d'entériner cet objectif pour 2050. L'Allemagne, dont le mix énergétique reste également très dépendant des énergies fossiles, s'inquiète de ses ambitions fixées par la Commission, d'autant que sa chancelière a choisi, elle, de sortir du nucléaire. Au-delà de la pression des États réfractaires, Bruxelles subira également celle des lobbies industriels qui continuent de brandir l'argument de la concurrence internationale pour s'opposer aux législations les plus contraignantes, sans parler des eurodéputés qui regrettent de ne pas être suffisamment entendus sur ces sujets, et sans parler non plus des citoyens pour qui la question du climat est de plus en plus prégnante, mais qui, lorsqu'ils sont sollicités dans le cadre de conventions citoyennes comme ce fut le cas ici en France, voient leurs propositions largement édulcorées par le pouvoir. Alors, de quelle marge de manœuvre dispose la Commission pour mettre en œuvre sa politique écologique? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a derrière ce pacte vert? Va-t-on réellement transformer nos économies ici en Europe, qui plus est dans un contexte économique gravement dégradé par la pandémie? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Marc-Antoine Elmazega. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur du Centre Énergie et Climat de l'IFRI. Avec nous également Thomas Pellerin-Carlin. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes, vous, chercheur en politique européenne de l'énergie et directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Alors, l'actu, elle est là maintenant, hic et nunc, c'est cet objectif de rehaussement des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Le président du Conseil européen espère parvenir, là, en fin de semaine, à un nouvel engagement des 27, à hauteur de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre contre aujourd'hui moins 40%. C'est un objectif qui serait une nouvelle étape sur le chemin de la neutralité carbone que l'Europe vise pour 2050. Mais pour y parvenir, il va falloir obtenir le soutien de la Pologne et de la Hongrie qui, eux, eh bien, continuent de bloquer le budget pluriannuel de l'Union européenne et le texte permettant le financement de l'instrument européen de relance post-coronavirus au motif que le mécanisme d'octroi des fonds européens a été conditionné au respect de l'état de droit. En fait, tous ces dossiers sont liés politiquement. Et Marc-Antoine Elmazega, on voit là combien cette intrication, en tout cas, elle permet cette intrication politique d'entrevoir l'immense défi que constitue cette transition écologique à 27. Marc-Antoine Elmazega.
Absolument. C'est un miracle, d'abord, que l'on en soit arrivé jusqu'à aujourd'hui, d'avoir une telle discussion au sein du Conseil européen. Croyez-moi, il y a un an et demi, on était très 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 loin d'en être là. C'est-à-dire qu'on était encore dans une situation où l'Allemagne trouvait que l'objectif de moins 40% de baisse des émissions en 2030 est déjà très ambitieux et qu'il fallait rester réaliste, qu'on ne pourrait pas s'engager sur des objectifs qu'on ne pourrait pas atteindre. Il y avait la France qui et un certain nombre d'autres États qui disaient « mais il faut aller plus loin ». Mais quand on a un mix électrique très largement décarboné, on est forcément suspect aux yeux de ceux qui, comme l'Allemagne ou la Pologne, ont encore énormément d'énergie fossile dans leur mix. Et là, ce qui s'est passé au cours de l'année et demie qui s'est déroulée, et puis surtout à la suite de des crises de la Covid, c'est que le Green Deal, cette transformation énergétique et digitale, tout cela reste, ce sont les piliers de la relance. Et aujourd'hui, évidemment, comme on arrive dans le moment où il faut régler les détails qui sont cruciaux, qui sont absolument stratégiques, eh bien, évidemment, ça coince. Et puis, il y a ces deux troublions, Pologne et Hongrie, qui, en passant sur l'énergie, font des efforts considérables. C'est-à-dire que la Pologne s'est quand même engagée à fermer ses centrales à charbon d'ici 2050, à déployer du nucléaire, de l'éolien, à renforcer l'efficacité énergétique. La Hongrie est dans une situation, je dirais, moins problématique parce qu'elle a déjà du nucléaire et elle est très bien connectée à ses voisins. Mais enfin, donc là, effectivement, comme on est dans le cœur de la bataille, c'est un sac de nœuds et ces deux dirigeants et ces deux pays qui dit populiste, hein, chacun ayant ses propres spécificités, eh bien évidemment prennent en otage le reste de l'avancée de ces plans de relance et puis des autres États européens.
Oui, sur la Pologne, il ne faudrait absolument pas penser qu'on ne veut pas faire les choses, hein, on veut bien engager la transition, mais à son rythme. Et évidemment, il faut bien comprendre que du côté de la Pologne, on a un mix énergétique qui est tout à fait différent du nôtre, on a un charbon qui est très prégnant, et pour en sortir, il faut plus de temps, c'est ce que demande la Pologne. Mais Thomas Pellerin-Carlin, Marc-Antoine Elmazega parlait de miracle. Le miracle, ce serait qu'on parvienne à trouver un nouvel accord avec tout le monde, à 27. Est-ce que vous pensez que ça serait c'est possible, ou il va falloir se tourner vers un plan B, et quel pourrait être ce plan B? Est-ce qu'il faut considérer qu'en réalité, on va pouvoir se mettre d'accord à, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de pays, et que tant pis pour les autres? Est-ce qu'il faut revoir un peu les choses? Vous y croyez, vous, un nouvel engagement de réduction des gaz à effet de serre à 27?
Oui, oui, absolument, et je pense en fait qu'il est déjà là.
Il n'est pas encore là.
Il est déjà là au sens où s'il n'y avait pas le problème du Brexit et le problème du budget européen que vous venez de mentionner, l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, il fait aujourd'hui consensus au sein des 27. Donc là, si vous voulez, le climat est, si je puis dire, un dommage collatéral d'une bataille politique, notamment sur l'enjeu de l'état de droit, qui est une bataille politique qui dépasse bien évidemment les seuls enjeux du climat. L'Union européenne, elle est unie en fait sur cette question du pacte vert. Elle est unie sur l'objectif de neutralité climat d'ici 2050. Cet objectif-là, il est soutenu par la Commission, soutenu par le Parlement européen, mais aussi soutenu par les 27 États au Conseil, y compris la Pologne, qui le soutient pour l'Union européenne et qui dit juste que elle, dans le cas spécifique de la Pologne, elle ne souhaite pas pour l'instant s'engager à s'appliquer cet objectif-là pour elle, pour 2050. Mais selon toute vraisemblance, elle acceptera soit de le faire pour 2050, soit peut-être un peu plus tard. Et du coup, elle sera, si je puis dire, le dernier arrivé des 27, le dernier à franchir la ligne d'arrivée. Mais ça permettra quand même à l'Union européenne d'atteindre cet objectif de neutralité climat d'ici 2050, objectif qui est vital pour stabiliser le climat.
Oui, mais enfin, c'est quand même un problème, Thomas Pellerin-Carlin, parce que vous dites, oui, la Pologne est aussi pour cet objectif, mais pas pour elle. Donc, en réalité, on se dit que on a beau faire de nouvelles annonces pour rehausser ces objectifs, en réalité, ça n'a pas vraiment d'incidence, puisque de toute façon, chacun fait un petit peu comme il veut dans son coin.
Le projet européen, c'est pas un projet d'harmonisation complète des nations européennes. C'est pas un projet de fusion de 27 peuples dans un melting pot à l'américaine. Le projet européen, c'est de comprendre les cauchemars de chaque nation. Et le cauchemar polonais, c'est la perte de son indépendance, comme la Pologne l'a vécu dans son histoire pas si lointaine. Et sur la base de cette compréhension des cauchemars, de bâtir un rêve européen. Et ce rêve européen, on le bâtit aussi en prenant en compte ces différences nationales. On a un objectif commun en Europe, qui est la neutralité climat d'ici 2050. Il va prendre des formes différentes selon les pays. La Finlande, par exemple, se donne cet objectif-là pour 2035, dans 15 ans. La Suède, pour 2040. Des pays moins ambitieux, de ce point de vue-là, comme la France ou l'Allemagne, visent 2050. Et la Pologne, pour l'instant, n'est pas encore sortie du bois, mais on serait a priori sur 2050, 55, 2060. Donc il y a vraiment une unité sur l'objectif final. Après, il y a évidemment des désaccords sur les outils. Mais ça, si je puis dire, c'est des désaccords qu'on a au niveau européen, comme on a, par exemple, au niveau français. Donc des désaccords sur les outils. Comment concrètement on fait cette transition et quel type de transition on fait? Comment est-ce qu'on change la manière dont on se transporte? Comment est-ce qu'on change la manière dont on se chauffe? Comment est-ce qu'on change la manière dont on rénove, par exemple, nos logements, où on produit notre acier, notre ciment, etc.
Marc-Antoine Elmazega, vous rappeliez tout à l'heure, à juste titre, que le monde a quand même été atteint par une crise sanitaire sans précédent. Et évidemment, on imagine que tout cela a eu un impact sur la manière dont on pense la transition écologique au niveau européen, en particulier au niveau de la Commission. Il y a eu évidemment des gouvernements qui ont, dans leur coin, lancé des plans de relance nationaux. On a une Commission qui, elle aussi, a mis en place son propre plan de relance écologique. Dans quelle mesure, justement, tout cela a modifié les ambitions originelles de la Commission telles qu'elles étaient pensées au moment de l'arrivée d'Ursula von der Leyen? Est-ce qu'il faut bien se rendre à l'évidence et se dire qu'il va falloir revoir un peu à la baisse les objectifs de départ concernant cette transition écologique? Ou est-ce qu'au contraire, il vous semble que les nouvelles marges de manœuvre qui sont dégagées, marges de manœuvre financières, vont permettre en réalité de mettre un coup d'accélérateur à cette ambition écologique, Marc-Antoine Elmazega?
Alors, le Green Deal, lorsqu'il a été conçu et pensé, c'était une stratégie de croissance économique qualitative. C'est-à-dire qu'on disait, voilà, on a un nouveau plan de marche pour renforcer le bien-être des Européens. Et le Green Deal visait pas d'ailleurs que le dioxyde de carbone, qui est l'un des gaz à effet de serre, mais toutes les dégradations environnementales et sanitaires affectant les Européens. Alors, ensuite arrive, un mois après pratiquement, on est plongé, deux mois après, dans la crise de la Covid, et là, il faut transformer ce plan de croissance en plan de relance, donc c'est quand même pas la même chose. Alors, la bonne nouvelle, c'est que lors de l'annonce du Green Deal et de cette ambition de neutralité carbone, etc., on s'interrogeait quand même sur... les besoins d'investissement supplémentaires qui allaient devoir être fournis et quel rôle d'impulsion allait donner la force publique, que ce soit la Commission, que ce soit les États, pour venir finalement amorcer ces investissements et encourager le secteur privé. Et on se rendait compte que, en fait, les sommes qui étaient discutées ne suffiraient pas. Et ensuite arrive donc cet enjeu de la relance, et là tout d'un coup, on met sur la table des centaines et des centaines de milliards d'euros qui n'étaient pas disponibles ou qui n'étaient pas proposés dans ces montants avant. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, la problématique quand même à laquelle on est confronté, c'est celle d'un décrochage d'un certain nombre de pays européens, notamment l'Italie et l'Espagne, et la France est un peu entre les deux, par rapport à des pays comme l'Allemagne ou certains pays scandinaves ou les Pays-Bas qui ont encore en réalité une croissance, un état des finances publiques qui est relativement équilibré et une vraie marge de manœuvre budgétaire et financière, alors que la nôtre et puis celle de l'Italie et de l'Espagne se restreint très fortement. Ils ont un niveau d'endettement public par rapport au PIB qui avoisine ou dépasse déjà les 150%, donc c'est quand même considérable. Maintenant, l'autre problème auquel on va être confronté, c'est que cette transition va coûter cher et se pose d'autant plus la question de la répartition juste des efforts. C'est-à-dire, qui doit payer, qui doit porter le plus d'efforts, à quel rythme, où, Et au contraire, auprès de qui il faut redistribuer, aider, soutenir, etc. Et cela d'un point de vue social, d'un point de vue industriel, d'un point de vue des États, des régions. Et c'est très difficile de vraiment penser cela jusqu'au bout, parce que la ligne rouge, c'est les gilets jaunes. Mais entre-temps, on ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'on va sortir de cette crise. Je pense que lorsqu'on a conçu ce plan de relance, on ne s'attendait pas à une seconde vague aussi dure. Et donc probablement que tous les fonds qui ont été proposés dans ce plan de relance, qui en passant n'est pas adopté, ne suffiront pas en réalité. Parce qu'on va avoir une crise sociale, économique dure l'année prochaine en particulier. Hein.
Alors on va y revenir, mais justement essayons de mesurer un petit peu les choses, ce que représentent les différents instruments qu'on ambitionne de mettre en place, Thomas Pellerin, Carlin. Il y en a un, par exemple, qui est le fonds de transition juste, qui doit permettre aux territoires à forte intensité carbone de faire face aux conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition vers cette neutralité climatique en 2050. Qu'on ait un peu une idée des choses. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? À qui il est destiné? Sous quelles conditions on va pouvoir y avoir accès? Présentez-nous un peu les choses. Qu'on détaille un peu certains outils, et celui-là en particulier. Thomas Pellerin, Carlin.
Donc le fonds de transition juste, c'est un outil nouveau. Il a été créé suite au débat qui a été porté notamment par l'Institut Jacques Delors, mais aussi par un eurodéputé polonais qui s'appelle Jerzy Buzek, et qui a permis la création de ce fonds. Aujourd'hui, ce fonds, en tout cas dans la négociation actuelle, il serait doté de 17,5 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près la moitié du budget annuel de l'armée française. Donc c'est quelque chose
donc
qui est significatif.
Mais c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup, c'est pas suffisant, c'est pas effectivement ce fonds-là qui à lui seul va résoudre tous les problèmes sociaux de la transition énergétique. Mais c'est quand même significatif. Avec 17,5 milliards d'euros, vous pouvez faire tout un tas de choses.
Donc à ça, qui si ça va aller
Donc ça va aller aux pays et aux régions qui dépendent le plus des activités polluantes. Donc le premier bénéficiaire, c'est bien évidemment la Pologne, mais il y aura aussi un bénéfice important pour d'autres pays. Je pense par exemple à la Roumanie, mais aussi à l'Allemagne, puisque l'Allemagne est encore aujourd'hui très dépendante des industries polluantes, que ce soit le charbon bien évidemment, mais aussi l'industrie de la voiture diesel.
Mais tout le monde va toucher. Hein. La Commission voulait absolument que tous les pays aient une part de ce fonds-là quand même. Hein.
Oui, et à juste titre, parce qu'en fait, tous les pays sont concernés. Par exemple, si on regarde concrètement, voilà, on a beaucoup parlé d'électricité pendant ce début d'émission, mais bien au-delà de l'électricité, il y a l'enjeu de l'industrie automobile, il y a l'enjeu de la production industrielle, d'acier, de produits chimiques, d'engrais, etc. etc. Et ça, vous voyez, c'est les secteurs qui concernent tous les États européens sans aucune exception.
Alors, si on poursuit un peu sur ce fond, Marc-Antoine Almazega, et qu'on essaye de formuler un peu une critique de tout cela, au départ, la Commission avait envisagé que ce fond ne concerne pas les investissements dans les énergies fossiles, et pour cause, c'est des énergies qui sont particulièrement polluantes. Et finalement, on est revenu sur ce principe. Pour quelle raison? Et est-ce que là, on n'a pas quand même une défaillance de cet outil, quand même? Un défaut, en tout cas.
Alors,
eh bien voilà, une ligne qui vient de casser. C'est la radio en direct, c'est la radio à distance. Marc-Antoine Almazega, est-ce que vous m'entendez ou est-ce que c'est terminé? Ça a l'air d'être terminé. Alors, on va essayer de refaire une connexion. Thomas Pellerin-Carlin, je me tourne vers vous. Et même question, on a là donc un outil 17,5 milliards, nous disiez-vous, qui est un outil quand même important, mais voilà qu'on peut l'utiliser pour faire des investissements dans les énergies fossiles. On n'a pas un problème là?
Alors, je me permets de vous corriger parce que la négociation n'est pas encore finie.
C'est pas encore
et
fini.
Et les informations que j'ai eues hier soir montreraient qu'on s'achemine vers un accord sur le fait que cet argent-là du Fonds pour la transition juste n'irait pas du tout aux énergies fossiles.
Ah, donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle.
Absolument. Donc là, la négociation en fait continue à avoir lieu sur le budget européen, et il y a deux négociations en parallèle, un sur ce fonds sur la transition juste qui est un outil nouveau, et un sur des fonds européens classiques qui sont les fonds européens pour le développement régional, qui sont des fonds qui existent depuis des décennies et qui ont des masses monétaires extrêmement importantes. Et l'accord qui a été trouvé, c'était de permettre un tout petit peu de financement pour quelques projets gaziers très précis dans le cadre du Fonds européen pour le développement régional, avec un plafond maximum de dépenses de 1% du total du fonds et une fin de la possibilité de ce financement en 2025. Et en contrepartie, sur le fonds de transition juste, il y aurait 0 centime qui irait aux énergies fossiles. Donc ça, c'est des négociations qui sont en train d'avoir lieu. Là, ce que je vous donne, c'est les informations que j'ai lues ce matin, juste avant l'émission par hasard. Donc c'est à vérifier, mais ça montre que tout ça, c'est vraiment un débat politique. Un débat politique qui est un débat démocratique où il y a un rôle clé, notamment du Parlement européen, puisque c'est notamment le Parlement européen qui avait voulu introduire le financement d'énergies fossiles dans le cadre du fonds pour la transition juste. Il y a d'autres parlementaires qui se battent bien évidemment contre ça, et on voit devant nos yeux un véritable débat démocratique au niveau européen, et qui va aboutir là probablement dans les jours à venir.
On va revenir justement sur la place de ce Parlement, mais pour être un peu précis justement sur ce fonds, pour qu'on comprenne bien, donc a priori on va exclure les énergies fossiles. Il m'a semblé, en tout cas c'est ce que j'ai lu hier pour préparer l'émission, que de la même manière, ce fonds ne devrait pas servir, j'utilise le conditionnel, à la construction de nouvelles centrales nucléaires. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que là aussi ça a peut-être changé?
Alors j'ai pas d'informations très fraîches sur ce point, mais effectivement ça m'étonnerait que de l'argent européen soit utilisé pour construire les centrales nucléaires. Là aussi pour une raison démocratique, qui est que il y a beaucoup de peuples européens qui sont profondément opposés à l'énergie nucléaire. On parle beaucoup de l'Allemagne, mais il y a aussi l'Autriche par exemple, ou l'Italie. En Italie, il y a eu plusieurs référendums contre le nucléaire, et je pense qu'il faut respecter les souverainetés populaires aussi dans ce type de cas de figure. Et du coup, ça me semble de bonne politique européenne que d'éviter que de l'argent européen, qui est aussi en partie du coup de l'argent italien, allemand et autrichien, n'aille financer des projets, surtout quand on sait qu'en Italie, ils ont eu plusieurs référendums contre le nucléaire. Mais le point important, au-delà du fond, pour la transition juste, ce sont les outils que la Commission met en place pour coopérer concrètement sur le terrain avec les régions. Et c'est des outils vraiment on peut appeler ça de la planification écologique si on le souhaite, mais on peut aussi appeler ça simplement de l'anticipation. De dire concrètement, dans telle région, la Silésie par exemple, qui est une région au sud-ouest de la Pologne, on sait que le charbon va devoir disparaître dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Comment est-ce qu'on organise ça? Comment est-ce qu'on arrête de former des jeunes travailleurs polonais pour rentrer dans des métiers qui disparaîtront dans 10 ans? Comment est-ce qu'on permet que aujourd'hui des mineurs de charbon qui ont la trentaine puissent dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans se tourner vers d'autres métiers? Et cette coopération concrète, elle vise à la fois à organiser la sortie dans l'ordre, si je puis dire, des énergies fossiles, et en parallèle de favoriser l'émergence de nouvelles activités économiques concrètes sur le territoire. Certaines sont liées à l'énergie, d'autres sont sur d'autres secteurs comme la santé ou le numérique.
On a retrouvé Marc-Antoine Elmazega. C'est ça la magie de la radio, c'est qu'on perd des liaisons, mais on les reconstruit très rapidement grâce à la maestria de réalisateurs et de techniciens. Marc-Antoine Elmazega, vous êtes là?
Voilà, je suis là. Je sais plus où est-ce que j'ai été.
C'est pas grave, mais moi, on a avancé en votre absence, et du coup, le point sur lequel j'aurais bien voulu vous entendre, c'est celui de la place du Parlement dans tout cela, parce qu'on parle beaucoup de la Commission, qui effectivement a beaucoup œuvré pour mettre en place d'abord ce Green Deal en décembre, et puis ensuite ajuster les choses avec l'émergence de cette crise sanitaire, imaginer de nouveaux outils qui permettent à la fois de faire de la relance économique, mais aussi d'élaborer des nouveaux outils qui vont soutenir précisément cette transition écologique. Mais qu'en est-il du côté du Parlement? On sait que traditionnellement, le Parlement est encore plus enclin justement à engager cette transition écologique. Mais jusqu'où il parvient, ce Parlement, à peser sur la Commission, sur le Conseil, sur les États? Est-ce qu'il vous semble qu'il arrive effectivement à tirer son épingle du jeu, Marc-Antoine Elmazega, ou c'est encore très largement insuffisant?
Non, je crois que depuis les élections européennes de l'année dernière, du mois de mai de l'année dernière, on a eu un Parlement européen qui a vu son rôle, son influence, sa responsabilité considérablement renforcée. Alors je crois que d'abord ça vient de l'élection même. Vous vous souvenez, on était extraordinairement inquiets, c'était en plein Brexit, on s'attendait à un renforcement des forces anti-européennes, etc. etc. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une très forte mobilisation des électeurs européens, l'abstention, etc., était beaucoup moins forte que d'habitude. Il y a eu des campagnes dans la plupart des pays européens qui ont mis le climat au centre des enjeux. Donc la plupart des partis qui ont été élus ont eu le climat comme enjeu important, majeur. Et ensuite, ce à quoi on a assisté, c'est finalement la fin de cette grande coalition gauche-droite qui était majoritaire et qui finalement prenait les décisions un peu sous forme de compromis mou. Et on a donc du coup une majorité qui doit se reposer sur au moins trois formations, ce qui est aussi nouveau. Et alors, de manière décisive, on a eu, il y avait traditionnellement une commission transport, énergie, etc., qui était un petit peu technique finalement. Et là, de manière extraordinaire, il y a cette commission environnement qui est dirigée par Pascal Canfin, qui fait un travail. Alors, c'est à la fois lié à ce Green Deal, à ce contexte, mais c'est aussi lié à un certain nombre de personnalités de cette commission, et dont Monsieur Canfin, qui finalement sont à la pointe de tous les combats, qui en réalité exercent de très fortes pressions sur les États membres, qui travaillent en étroite symbiose avec la Commission. Alors vous savez, il y a beaucoup de décisions qui se prennent à trois, hein. Il faut que la Commission, le Parlement et le Conseil soient alignés, et qui en réalité poussent parce que les députés, etc., ont bien conscience que s'ils ne poussent pas plus fort, les États freineront toujours. Et donc, pour obtenir 5, il faut demander 15. Et si on demande que 10, eh ben, on n'aura finalement que 3. Voilà, donc c'est un petit peu toujours cela. Et on l'a vu d'ailleurs sur l'objectif rehaussé là, à 2030, le Parlement voulait moins 60, moins 65%, ce qui fait sens d'un point de vue de l'urgence climatique et d'un certain nombre de contraintes. Et les États, du coup, qui peut-être, pour certains, voulaient se contenter de moins 50, éventuellement, voire moins 45, eh bien, finalement, ont été obligés d'accepter ou de se résoudre à un compromis de moins 55%. Donc, ce Parlement-là, il joue un rôle absolument crucial. C'est aussi l'une des découvertes finalement de cette grande aventure du Green Deal, et je crois que c'est absolument bénéfique.
Voilà, ce Parlement qui se fait entendre, ces eurodéputés dont on entend la voix. Tiens, ben justement, on va retrouver un, c'est Pierre Laroutourou.
Je suis rapporteur général du budget et je trouve un peu obscène quand les chefs d'État nous disent qu'il n'y a pas d'argent pour la santé, qu'il n'y a pas d'argent pour le climat, qu'il n'y a pas d'argent pour l'emploi, alors qu'avec une petite taxe sur la spéculation, on aurait 50 milliards chaque année. Donc ça fait 3 mois que le Parlement européen dit « nous voulons un plan d'urgence ». J'ai derrière moi, politiquement, 70% des députés du Parlement qui disent « il est temps de taxer un peu la spéculation ». Vous et moi, quand on fait des courses, on paye de la TVA. Même les plus pauvres en France, ils payent 5,5% de TVA pour manger. Juste pour manger, ils payent 5,5% de TVA. Mais sur les marchés financiers, c'est 0,0.
Voilà, Pierre Laroutourou qui expliquait au micro de France 24 les raisons de sa grève de la faim, demandait cette taxe sur la spéculation. Effectivement, Thomas Pellerin, Carlin, j'entends bien sûr ce que nous dit Marc-Antoine Almazéga, c'est-à-dire que ce Parlement pèse de plus en plus et qu'il participe à la construction de ce grand consensus européen, mais quand on entend des voix qui viennent du Parlement, on entend aussi que ce Parlement ne pèse pas suffisamment, que l'on n'entend pas suffisamment ses propositions. Il y a cette taxe sur les transitions financières, il y a une taxe carbone aux frontières dont on parle beaucoup au Parlement, et que tout cela finalement n'avance pas beaucoup, voire pas du tout. Est-ce qu'il vous semble que là, il n'y a pas un défaut et qu'il ne faudrait pas davantage écouter le Parlement sur ces sujets? Est-ce qu'il vous semble qu'il est assez entendu, Thomas Pellerin-Carlin?
Je pense qu'il faut regarder un peu au cas par cas. Sur des questions très précises de réglementation sur les émissions des voitures, la rénovation des bâtiments, etc., le Parlement européen a un pouvoir tout aussi important que les États représentés au Conseil. Donc c'est vraiment une égalité de pouvoir entre le Parlement d'un côté et le Conseil qui représente les gouvernements nationaux de l'autre.
Mais par exemple, sur la taxe sur les transactions financières, qui est un sujet qui effectivement fait consensus au Parlement, fait consensus dans l'opinion, et pourtant on n'y arrive pas. Donc ça veut bien dire que le Parlement n'arrive pas à peser sur ce sujet.
Bah, il arrive à peser, et le fait qu'on en parle aujourd'hui montre déjà que le Parlement arrive à peser.
Mais ça n'entraîne pas de nouvelles législations.
Bah, parce que le Parlement décide pas tout seul. Il y a une autre forme de légitimité au sein de l'Union européenne, qui est le Conseil, et le Conseil représente les gouvernements nationaux. Donc là, la question qu'il faut poser, c'est qui sont les gouvernements nationaux qui soutiennent vraiment cette taxe, ceux qui font semblant de la soutenir, c'est le cas de la France, et ceux qui la soutiennent pas. La taxe sur les transactions financières, c'est un sujet qui a plus de 10 ans. Elle était portée il y a plus de 10 ans sous forme d'une coopération renforcée entre une dizaine d'États européens. Elle était portée à l'époque par Angela Merkel, déjà elle, et à l'époque la France de Nicolas Sarkozy. Ce projet-là était enterré à partir partir de 2012, et notamment par le président de la République française, François Hollande, avec son conseiller économique, Emmanuel Macron à l'époque, qui, dans les faits, ont ralenti le travail sur cette taxe et expliquent les retards qui ont été pris. Il y a évidemment d'autres responsabilités là-dessus, mais par exemple, un des rôles qu'on peut, une des questions qu'on peut se poser, par exemple, dans le cas français, c'est la place de notre pop démocratie et de comment est-ce que la voix de la France en Europe est constituée, elle est portée. Pour vous donner un exemple danois, au Danemark, lorsque un ministre va défendre la position du Danemark au niveau de l'Union européenne, il doit d'abord passer devant son Parlement, et il y a un débat parlementaire, et il reçoit un mandat impératif, ce qui veut dire que si le ministre danois dit autre chose que ce que le Parlement lui a demandé, il perd son job. Vous voyez qu'en France, on en est très très loin, et ça explique, parmi d'autres éléments, bien sûr, la lenteur, si je puis dire, du débat sur la taxe sur les transactions financières.
Marc-Antoine Elmazega, sur cette taxe, et de façon plus générale, sur effectivement ce processus démocratique à l'intérieur de l'Europe, et en particulier s'agissant des mesures qui concernent cette transition écologique. Parce que ces dernières années, on a entendu beaucoup de critiques à l'endroit de l'Europe, qui ne serait pas suffisamment démocratique, de l'urgence à replacer les citoyens au cœur des décisions politiques. Est-ce qu'il vous semble que la transition écologique, c'est une bonne opportunité pour répondre à cette critique, ou au contraire, vous dites attention, c'est pas forcément un sujet sur lequel faut tenter des expériences qui risqueraient d'être déçues, qui se fracasseraient par ailleurs sur les divisions internes à l'Europe. Attention, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marc-Antoine Elmazega?
Alors, d'abord, peut-être juste pour compléter cet aspect que vous évoquiez sur la taxe sur les transactions financières et ce que disait Thomas. Malheureusement, il y a un certain nombre de domaines qui sont absolument fondamentaux, dans lesquels, en réalité, régit la règle de l'unanimité entre les États membres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas développer une décision si tous les États membres ne la signent et ne la ratifient pas.
C'est le cas de la fiscalité.
C'est le cas de la fiscalité, malheureusement. Or ça va devenir de plus en plus problématique à mesure que l'on va accélérer effectivement cette transition. Et c'est d'ailleurs la même chose en politique étrangère, par exemple. Donc c'est un vrai problème, parce qu'en réalité cette accélération de la transition demande plus d'intégration, plus de coordination, mais aussi finalement plus de subsidiarité, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui vont devoir être décidés peut-être et organisés à des échelons différents qui sont plus pertinents. Et d'ailleurs on n'en a pas encore parlé, mais un des grands échelons qui manque dans cette architecture, ce sont les villes. Puisque l'Europe a une politique régionale, mais elle n'a pas une politique à l'encontre des villes. Et souvent, c'est le résultat d'un constat, c'est que les villes n'ont pas forcément la même couleur politique que les gouvernements. Et puis, jusqu'à présent, on ne les voyait pas beaucoup sur les sujets environnementaux et climatiques. Or, pourtant, c'est là qu'habitent les gens, c'est là que sont générées la majorité des émissions, et c'est là que doivent s'organiser les transports décarbonés, etc. Et donc, voilà, là, il y a un vrai enjeu. C'est une partie de la réponse à votre question. Et plus largement, il y a effectivement un problème de représentativité. Mais si vous voulez, c'est un éternel débat. On a cette convention citoyenne en France dont on peut discuter de est-ce qu'elle est vraiment représentative ou pas. Je crois que
on l'a mise sur pied avec ce souci-là, la représentation.
Absolument, tout à fait. Et alors, du coup, une fois qu'elle a fait ses propositions, est-ce qu'il faut les adopter en tant que telles, ou idéalement, en réalité, il faudrait les insérer dans un débat parlementaire, et en partie, je crois.
Mais c'est ce qui va être fait. C'est ce qui est fait.
Voilà, c'est ce qui va être fait, et ça, c'est plutôt sain. Maintenant, le problème, c'est que on ne peut pas. Vous voyez, par exemple, le Parlement français. La majorité des parlementaires français ne sont pas au courant de ce qui se passe à Bruxelles, ne comprennent pas les enjeux systémiques de la transition énergétique. Alors, on ne peut pas s'engager sur de tels enjeux qui impliquent l'avenir économique, géopolitique, industriel et démocratique et social de nos sociétés sur le règne d'opinions individuelles prises dans une petite fourchette individuelle de chacun. Ça, c'est pas possible. Donc là, il y a effectivement la nécessité probablement de repenser un petit peu tous ces liens. Et à tous les niveaux, c'est-à-dire que par exemple en France, pour reprendre la problématique des villes, je ne vois pas suffisamment de concertation avec les qui inclut les pouvoirs centraux à Paris et puis les régions et les villes. Mmh. Et cela devrait aussi nourrir aussi cette réflexion plus large sur cette transition en Europe. On ne peut pas réussir cette transition à sa petite échelle. Il faut la construire beaucoup plus largement, mais énormément d'enjeux. Par contre, mérite évidemment d'inclure les différentes circonstances particulières qu'on retrouve, l'organisation d'un territoire, ses besoins spécifiques, etc. Mmh. Et donc voilà, cette articulation là, pour l'instant, n'est pas suffisamment pensée et pas suffisamment bien organisée.
Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Pellerin, Carlin, sur cette articulation? Et puis peut-être je vais vous faire réagir quand même, effectivement, parce que certes la France n'est pas l'Europe, mais c'est un pays très important et ça nous dit beaucoup aussi de cette articulation ou ce manque d'articulation précisément entre les politiques européennes pour cette transition écologique et les politiques nationales. Parce que ces derniers jours, il y a beaucoup de débats en France autour de cette convention pour le climat qui a rendu ses conclusions, dont les propositions n'ont pas été reprises en l'état et sans filtre comme l'avait promis le président Macron. Il y a un projet de loi climat, maintenant issu de ces travaux, qui est transmis cette semaine au Conseil d'État, qui devrait reprendre à peu près 40% des propositions. C'est en tout cas ce qu'a indiqué en début de semaine la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Que vous inspire précisément ce décalage entre les propositions citoyennes et le projet de loi? Est-ce qu'au fond, tout cela est tout à fait normal, dans le sens où tout ne pouvait pas se retrouver, vous ne pouvez pas trouver une traduction législative directe, où vous dites que là, il y a peut-être une erreur politique à un moment où c'est un sujet en plus qui monte dans le classement des préoccupations des citoyens?
Je pense que le principal enseignement de la Convention citoyenne pour le climat, en tout cas pour moi en tant que chercheur, c'est qu'on se rend compte que quand on donne aux gens des informations, y compris des informations contradictoires, c'est-à-dire que il y a des experts qui se sont exprimés devant ces citoyens de la Convention et qui avaient des points de vue différents, qu'on laisse du temps au débat, on voit que des citoyens tout à fait normaux, qui sont globalement représentatifs de la société française, réussissent à élaborer des propositions qui sont très ambitieuses, qui sont objectivement à la hauteur des enjeux climatiques. Pour le dire franchement, hein, sont des propositions beaucoup plus ambitieuses et beaucoup mieux construites que ce que font la plupart des parlementaires français.
Et alors que vous inspire le fait précisément qu'elles ne soient pas reprises en l'état, en intégralité, dans un projet législatif?
Là, à mon avis, le sujet, c'est un sujet éminemment politique, et ça pose évidemment la question de la place de l'écologie dans le projet politique qui est porté par le gouvernement actuel et par la majorité politique actuelle. Mais je souhaitais revenir sur le point des villes, qui me semble vraiment crucial. Ça aussi, c'est une des grandes évolutions où l'Union européenne avance à très très grands pas. Comme Marc-Antoine le précisait, il y a encore quelques années, l'Union européenne ne collaborait quasiment pas du tout avec les villes. Aujourd'hui, on a deux outils de collaboration qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est la Convention des maires pour le climat, qui permet des échanges très concrets de bonnes pratiques entre différentes villes européennes. Il y a plus de 6000 villes européennes qui sont dans cette convention. Et le deuxième, et il me semble encore plus intéressant, c'est une mission européenne de recherche et d'innovation pour trouver 100 villes européennes qui s'engagent à devenir neutres pour le climat d'ici 2030. Donc 2030, c'est dans 9 ans et 3 semaines. Voilà. Et ça, c'est extrêmement ambitieux, c'est en train d'être monté. La Commission européenne cherche justement des villes qui sont volontaires pour s'engager là-dedans. Et ça va permettre d'avoir une centaine de laboratoires où on va pouvoir tester sur le terrain comment est-ce qu'on fait de l'innovation démocratique, comment est-ce qu'on se déplace autrement, comment est-ce qu'on rend la ville aux piétons, aux cyclistes et aux autres modes de transport doux, comment est-ce qu'on organise une agriculture locale, une production d'énergie locale, en tout cas autant que possible. Et ça va nous permettre, si on réussit à faire ça, à démontrer concrètement que dans 100 villes différentes, des villes industrielles et des villes qui sont pas industrielles, des villes de montagne et des villes côtières, on réussit à faire la transition en Europe en 2030. Et après, évidemment, de déployer ça pour toute l'Europe, mais aussi pour tout le reste du monde. L'idée étant que les solutions qu'on développe en Europe, c'est pas que pour l'Europe, c'est pas que pour Paris, Grenoble ou Rome, c'est aussi pour Shanghai, pour Pékin, pour Tokyo, pour Johannesburg et pour New York.
Oui, évidemment. On sait l'importance des villes dans la transition écologique dans son ensemble. On est avec vous, Thomas Pellerin-Carlin, et vous, Marc-Antoine Elmazega, dans cette série consacrée à la lutte contre le dérèglement climatique, 5 ans après l'accord de Paris. On parle aujourd'hui de l'Europe, on parle de ce Green Deal renforcé, mais de cette union toujours divisée. On va regarder peut-être ce que la politique monétaire, la Banque Centrale Européenne pourrait faire en la matière, parce que jusqu'ici, elle ne s'est jamais occupée de soutenir ou de participer aux efforts de lutte contre le réchauffement climatique. Gardienne de la stabilité des prix au sein de la zone euro, cette banque centrale est particulièrement peu encline à poursuivre d'autres objectifs que celui de son mandat initial. En tout cas, c'était le cas jusqu'ici.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Il est évident que les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Mais qu'on aille vers une transition graduelle pour éliminer ce type d'actifs, ça me paraît aussi un impératif si on est convaincu de la nécessité absolue de joindre nos forces, où que l'on soit et quelque institution que l'on dirige, pour lutter contre le changement climatique.
Voilà, cette voix qu'on entendait, c'était celle de Christine Lagarde, évidemment, donc à la tête de la Banque Centrale Européenne, de la BCE. Bonjour, Isabelle Coupé-Soubéran.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, maîtresse de conférences en sciences économiques à l'Université Paris-1-Panthéon-Sorbonne et vous êtes également conseillère éditoriale au CEPI. Vous venez de publier...
Non, vous
ne l'êtes plus, pardon.
Je suis conseillère scientifique à l'Institut Veblen.
Et ben voilà, justement,
pour
lequel vous avez justement fait une note extrêmement intéressante sur le rôle de la politique monétaire dans la transition écologique, avec un petit tour d'horizon des différentes options de verdissement, et on va faire justement ce tour d'horizon. Mais avant de voir justement les différents instruments possibles, penchons-nous un instant, s'il vous plaît, sur le principe même de l'intervention de la BCE dans l'action environnementale. Aujourd'hui, la BCE poursuit 3 objectifs, la stabilité des prix, la croissance, en gros l'emploi, et la stabilité financière. Est-ce que vous pensez qu'il est indispensable d'élargir son mandat et d'y intégrer la soutenabilité environnementale? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce que ça fragilise ses prérogatives originelles?
Alors, si vous voulez, on peut pas avoir d'un côté le Green Deal, les objectifs climatiques et environnementaux définis par l'Union européenne dont vous avez discuté, et puis de l'autre, une Banque centrale européenne qui continue de mener sa politique monétaire tout à fait indépendamment du risque climatique. Il faut de la cohérence entre les deux. Et au fond, c'était un peu le sens aussi du mot de Christine Lagarde dans l'extrait que vous avez passé. Il faut que la Banque Centrale Européenne regarde dans la même direction que l'Union en matière climatique et environnementale. Et si elle ne le fait pas, eh bien, elle retardera les objectifs de l'Union.
Alors justement, pour y arriver, Isabelle Coupé-Soubéran, oui. On va faire un peu le tour de la question, on va mettre les mains dans le cambouis vert. Vous avez exposé plusieurs instruments qui pourraient être sollicités précisément par la BCE pour soutenir ce virage écologique. Vous les avez classés du vert clair pour les mesures les plus mesurées au vert vif pour les mesures les plus ambitieuses. On va commencer par les plus mesurées qui présentent l'avantage de ne pas impliquer directement la Banque Centrale dans le financement de la transition écologique. Vous nous présentez un peu ces instruments vert clair, leurs effets et leurs limites aussi.
Oui. Alors, ce qu'on met en évidence, en effet, si vous voulez, dans ces notes, c'est que la Banque Centrale Européenne n'est pas complètement aveugle au risque climatique, mais quand elle le prend en considération, eh bien, c'est essentiellement, en fait, pour développer une approche très très quantitative et regarder quels sont les risques financiers induits par le risque climatique et donc s'engager dans des formalisations qui finalement retardent toujours le passage à l'action. Et donc on appelle à une sorte de whatever it takes climatique, hein, c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne devrait s'engager pour prévenir la crise climatique comme elle s'est engagée finalement face à la crise financière ou face à la crise sanitaire. Et contrairement à ce qu'on entend, ça fait partie déjà implicitement du mandat de la Banque Centrale Européenne de s'occuper de cela. Pourquoi ? Parce que dans son mandat, ce qu'il est écrit, c'est qu'elle doit apporter son soutien aux objectifs de l'Union. On l'a dit, l'Union a des objectifs climatiques, elle doit donc apporter son soutien à ces objectifs. Elle a de quoi le faire. Elle a de quoi le faire et effectivement, on présente tout un éventail d'options. Alors, les options...
Les options vert clair.
Les options vert clair qui permettraient de verdir la politique monétaire, ce sont ce sont des options qui consistent à faire dépendre les refinancements des banques des efforts qu'elles fournissent dans le financement de la transition écologique. Ou encore, ça consisterait à n'accepter, si vous voulez, comme collatéraux, c'est-à-dire comme garantie apportée par les banques dans ces opérations de refinancement, que des actifs suffisamment verts en excluant des actifs bruns. Ça pourrait consister aussi à verdir les achats d'actifs de la Banque centrale. Alors, verdir ces achats d'actifs privés pour qu'elles se comportent en investisseurs responsables, ou bien même prévoir un programme spécial d'achats d'actifs permettant, si vous voulez, de faciliter le financement d'investissements dans la transition écologique. Et ça, en fait, c'est réalisable à cadre institutionnel constant, quasiment. Alors peut-être qu'il faudrait expliquer...
Sans rien changer, sans réformer, on peut le faire. Alors,
oui, un peu de réécriture peut-être, mais ce serait vraiment dans l'esprit du traité.
En revanche, si on va plus loin, justement, sur les verts vifs, alors, allons-y sur le vert vif. Là, c'est l'autre option qui consiste à monétiser directement les dépenses nécessaires à la transition.
C'est ça. Alors, c'est une autre option qu'il ne faut pas nécessairement voir, si vous voulez, comme une option alternative, en contradiction avec la précédente. C'est-à-dire que on pourrait très bien les articuler, mais c'est une option qui, dans l'esprit, est quand même assez différente des précédentes, parce que c'est déjà une option qui part du principe qu'il faut se préoccuper davantage du financement de l'investissement public dans la transition écologique, et que pour permettre cet investissement public dans la transition écologique, eh bien, il faudrait monétiser une partie de ces investissements. C'est-à-dire, en fait, les faire prendre en charge par la Banque Centrale Européenne sans remboursement. C'est-à-dire sans que ça passe par une dette, en libérant ces investissements
par création monétaire. Par création monétaire. Ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, non ? Je me trompe pas.
Alors, c'est un peu ça, si vous voulez. Mais en fait, ça n'implique pas forcément davantage de création monétaire que ce qu'on a aujourd'hui. Ça implique surtout, si vous voulez, d'orienter différemment cette création monétaire de la Banque centrale. Aujourd'hui, les banques centrales émettent énormément de monnaie centrale, des milliers de milliards d'euros, de dollars de monnaie centrale pour acheter des titres sur les marchés ou pour refinancer les banques. D'accord ? Eh bien, la monétisation, c'est pas nécessairement une création de monnaie centrale additionnelle. C'est le fait, si vous voulez, de distribuer directement cette monnaie centrale. Alors, dans le cas que je suis en train de présenter, en fait, distribuer cette monnaie centrale au Trésor, s'engageant dans des investissements dans la transition écologique.
Je vous arrête tout de suite, Isabelle Coupé-Souveyran, parce que là, il faut bien comprendre les choses. J'entends, il n'y a pas de surplus de création monétaire. Mais pour s'assurer précisément qu'on verdit cet argent qui vient de la BCE, comment on contrôle les choses ?
Alors, il faut, bien sûr, si vous voulez, il faudrait arriver à définir quels sont les investissements publics dans la transition écologique que l'on a besoin de faire prendre en charge par la Banque Centrale Européenne. Ce n'est pas à la Banque Centrale Européenne d'en décider toute seule. Ce n'est pas non plus aux États, au Trésor, d'en décider tout seul. Il faudrait avoir une structure institutionnelle ad hoc, conçue exprès, suffisamment collégiale, qui permette de mettre autour de la table les États, la Banque Centrale Européenne, évidemment, et puis tous les représentants de l'eurosystème, les parlementaires européens et nationaux, et éventuellement, si vous voulez, même, pourquoi pas, des représentants de think tanks climatiques, des experts en tout cas du risque climatique ou des experts du GIEC. Ce serait une bonne structure pour décider de cela. Il ne s'agit pas de faire décider la Banque Centrale Européenne toute seule ou même les trésors tout seuls. Et il ne s'agit pas non plus, en fait, de voir cela comme un nouveau mode de financement open bar qui viendrait remplacer tout le reste.
Point de détail, je vous avais coupé Soubéran, mais détail quand même important, pas besoin pour ce faire de réformer la BCE, de changer ses prérogatives, pas utile. Politiquement, ça vous paraît possible ? Les Allemands, par exemple, dont on sait qu'ils sont pas forcément enclins à changer le statut de la BCE, à la réformer, est-ce qu'ils seraient prêts à le faire, vous pensez ?
Mais si vous voulez, ce qui ne paraît pas possible à un moment donné peut le devenir à un autre moment. Bien sûr, c'est une option qui est complètement hors cadre. Mmh. D'accord ? La monétisation, c'est strictement interdit par l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, ok, c'est interdit. Est-ce que pour autant il faut s'empêcher d'y penser ? Non. Je crois que nous avons besoin, si vous voulez, d'un cadre nouveau pour agir. Nous avons besoin d'un traité nouveau pour être en mesure de faire face aujourd'hui à la crise sanitaire qui pourrait se répéter, à la crise sociale que ça implique.
J'entends, mais ça c'est votre... J'entends, Isabelle Coupé-Souverain, mais ça c'est votre conviction. Mais est-ce que du côté de l'Allemagne, on a des signaux qui montrent que c'est en train de bouger et qu'on peut l'imaginer ?
Eh bien, oui. En fait, si vous voulez, ce travail de conviction, il faut le mener, il faut convaincre, d'accord, en effet, tous les partenaires européens de la nécessité de cela. Il faut absolument que ça passe, en fait, au niveau, je crois, du Parlement européen, au niveau des politiques, parce que c'est lorsque les politiques en seront convaincus qu'ensuite, eh bien, on pourra forger un nouveau cadre et éventuellement donc un nouveau mandat qui s'imposera à la BCE et ça suivra. Mais cela étant, je voudrais pas, si vous voulez, que vous restiez avec cette idée qu'il faut attendre ce moment-là, hein, ce moment de rupture, de changement de traité pour commencer à agir. Bien sûr qu'on peut commencer à agir dès maintenant, c'est-à-dire qu'on peut en passer par les options vert clair, tout en gardant en tête que les options vert clair, leur avantage, c'est qu'on peut les faire à cadre institutionnel constant, mais elles ne permettront que des petits pas. Ouais. Dans la transition écologique. Ouais. Et si on veut faire de plus grands pas, il faudra en arriver à des changements institutionnels plus importants. Articulons tout cela, avançons d'une manière graduelle, mais en ayant, si vous voulez, en ligne de mire, ces changements absolument indispensables. On travaille aujourd'hui dans le cadre d'un traité qui est complètement dépassé, qui n'est plus du tout adapté à la situation et à la situation actuelle et aux enjeux écologiques.
Pour comprendre ces petits pas et ces plus grands pas, Isabelle Coupé-Souverain, on peut renvoyer les auditeurs au site internet de l'Institut Veblen sur lequel on peut relire votre note extrêmement intéressante. Et j'indique également aux auditeurs que vous êtes l'autrice d'une économie en BD qui est parue chez Casterman. C'est bientôt Noël. C'est un très bon cadeau pour les enfants, les enfants un peu grands quand même, hein. Pour le collège, ça commence à être tout à fait adapté. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin.
I was lonesome and the wind blew upon me. Lucky she had the eye to find the diamond in this chunk of coal.
Et un grand merci également à nos deux invités qui nous ont accompagnés depuis 11 heures pour comprendre ces enjeux du climat dans ce cadre européen. Thomas Pellerin, Carlin et Marc-Antoine Elmazega, merci infiniment d'avoir été avec nous. On poursuivra demain, on s'intéressera à la Russie. Mais pour l'heure, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors on l'a dit, on l'a répété, la polarisation qui déchire le corps social de nos démocraties en menace l'existence même.
Et oui, parce que le relatif consensus qui existait entre les habituels partis de gouvernement autour de quelques principes de base et permettait donc les alternances sans drame se désagrège. Les compromis, si nécessaires à la mise en place de décisions qui lèsent le moins possible, s'avèrent de plus en plus difficiles à trouver. Le dialogue démocratique fait place à des violences dont l'intensité ne cesse de croître, ce qui provoque en réaction un désir d'ordre et d'autorité dont les sondages enregistrent la progression. Autant d'opportunités pour les ambitieux, désireux de jouer les hommes forts. Les politologues ont multiplié les analyses de cette crise, disséqué les causes de la montée du populisme. On a fait appel aux historiens pour chercher des précédents, notamment dans les années 30. Mais c'est de plus en plus vers les psychologues qu'on se tourne pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Deux psychologues néerlandais, Jan Willem van Prooyen et André Krouwel, ont publié une étude consacrée aux traits psychologiques relevés parmi les tenants des idéologies extrémistes. Qu'ils se prétendent de gauche ou de droite, ils présentent en effet sur le plan psychologique des ressemblances troublantes. On constate en premier lieu une détresse psychologique due à un sentiment d'incertitude. Les adeptes des doctrines radicales souffrent généralement d'une perte de sens, fréquemment consécutive à des événements ressentis comme des injustices personnelles. Lorsque le monde environnant apparaît comme incompréhensible, cela entraîne, chez des personnalités fragiles, le besoin de retrouver la direction d'un but, l'assurance d'une mission. Elle compense un manque de confiance en soi par des convictions idéologiques audacieuses.
À noter, Brice, selon ces psychologues, le besoin de sécurité tend à favoriser plutôt l'engagement à droite dans les pays jouissant d'un haut niveau de développement humain, plutôt à gauche dans les pays les moins développés.
Vient ensuite le simplisme cognitif. La détresse personnelle aggrave un besoin existentiel de clarification. Les croyances extrémistes fournissent, face à un environnement perçu comme complexe, une apparence de sens facilement accessible. Il y a dans les idées générales une puissance terrible, surtout lorsqu'elles sont simples et font appel à la passion, écrivait Taine dans Les origines de la France contemporaine. Qu'ils soient de droite ou de gauche, écrivent nos deux psychologues néerlandais, les deux extrêmes croient que les solutions aux crises sont simples. Ce qui les rend très vulnérables, sans doute, aux théories conspirationnistes attribuant tous les maux de la Terre à une cause unique et facilement identifiable. L'arrogance intellectuelle et la certitude d'être en possession de la vérité, c'est le troisième trait psychologique commun aux extrémistes, un excès de confiance intellectuelle qui confine à l'arrogance. De leur certitude d'avoir raison et d'être dans leur bon droit, les adeptes du radicalisme politique tirent un sentiment de supériorité. Ils tentent à considérer les dogmes de leur propre chapelle comme des vérités universellement valables et qui mériteraient donc d'être universellement admises. À leurs yeux, elles constituent des évidences, de même que le langage parfois étrange dans lequel ils ont l'habitude de les formuler. Ceux qui croient disposer du monopole des bons sentiments ont trop tendance à en conclure qu'ils détiennent ipso facto le monopole de la vérité, disait le sociologue Raymond Boudon. Ils sont de ce fait habitués au biais de confirmation. Ils n'entendent que les arguments susceptibles de rentrer dans la grille d'interprétation que leur fournit leur groupe d'appartenance et ils écartent tous les faits susceptibles de la contredire. L'extrémisme est intellectuellement arrogant alors même que ses arguments sont pauvres et son savoir limité. Enfin, ce simplisme cognitif, associé à un excès de confiance envers la doctrine et le groupe qui la partage, provoque l'intolérance à laquelle se reconnaissent les extrémistes de tous les bords. Ces extrémistes contribuent à polariser la société, concluent nos deux psychologues. Ils considèrent la vie politique comme un jeu à somme nulle, où il ne peut y avoir que des gagnants, eux, et des perdants, tous les autres. Ils ne conçoivent pas le compromis. Mais le paradoxe, c'est que le profil psychologique des extrémistes des deux bords offre tant de ressemblances alors qu'ils professent des idées qui normalement se contredisent. Même si, dans certaines circonstances historiques, les idéologies extrémistes de droite et de gauche parviennent parfois à conjuguer leurs thèmes et même à mélanger leurs militants. C'est alors qu'elles deviennent le plus dangereuses, comme le national-socialisme.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On vous retrouve demain et dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.
France Culture. L'esprit d'ouverture.